France Culture.
Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Grandlund. Cette semaine, une playlist pour les grands enfants et les jeunes ados. Pour apprécier véritablement l'épisode de ce jour, pour en goûter la saveur particulière, en sentir les arômes, les fumets délicats et les tendresses cachées, il faudrait en théorie avoir déjà dégusté un fesenjoun, amoureusement mijoté avec des grenades et des noix, un choreshte bademjoun, cuisson lente et subtile d'aubergines dorées au four, un sabzi polo, riz aux herbes, au safran et aux épines vinettes, ou un rorme sabzi, un monument, chelo kabab, une divinité en soi. Il faudrait dans l'idéal avoir passé une fête du feu chez Farangis, regrettée auteure, journaliste et cuisinière, et goûter les plats paradisiaques qu'elle préparait amoureusement des semaines à l'avance, en faisant venir des ingrédients d'Iran, bien sûr, les pistaches, les noix, les herbes et la poésie pour aller avec. Pour ceux qui n'ont pas cette chance, et ne l'auront plus, hélas, il vous reste l'imagination et quelques bons restaurants ou livres de recettes. En attendant, c'est l'histoire tout de suite de Hossein, iranien de France, qui nous l'a écrite sur le site de France Culture à la page des Pieds sur Terre. Leïla Djitli est allée le rencontrer. Elle dit qu'il a mis en acte, sans le savoir, ce que l'on appelle aujourd'hui la masculinité positive.
Je m'appelle Hossein, je suis chirurgien, je travaille en Bretagne. Ça fera 20 ans. En fait, l'histoire, c'est un pacte et une complicité qu'il y a eu entre moi et ma maman, une maman aimante comme toutes les mamans du monde. Elle était femme au foyer et je crois qu'elle avait la quarantaine avancée, je dirais 40, 45 ans peut-être. Elle est née dans un village qui se trouve dans la province qui jouxte l'Afghanistan en Iran, en fait, la province de Khorasan, dans une famille modeste, je dirais, des agriculteurs qui avaient quelques terres, mais quand même. On parle d'un pays patriarcal, donc les filles vont éventuellement à l'école, mais de préférence font la cuisine et apprennent à devenir des femmes et des mamans. Et les garçons vont plutôt à l'école, ça dépend, pendant quelques années, puisque après il faut prendre le flambeau, aller donner un coup de main au papa. Donc elle était l'aînée de la famille, donc elle n'avait appris ni à lire ni à écrire. Et puis elle tombe un jour amoureuse de mon père, qui était un super beau mec. Et elle se marie avec et elle part à Téhéran. Elle s'installe à Téhéran, donc je crois qu'elle avait dans les 16-17 ans à peine. Puis je suis né un an après, et puis voilà. Et c'était en 1980, je crois, juste après la révolution iranienne. À l'époque, donc, moi je suis le fils aîné, il y avait mon frère et après il y avait une petite sœur. Je me souviens parfaitement. J'étais au lycée à l'époque et j'étais en train de faire mes devoirs en fait. J'étais dans le salon, je fais mes devoirs et puis ma maman elle arrive, elle se met à côté de moi, elle commence à feuilleter un livre et elle me dit voilà, sans détour ni rien. Hossein, je voudrais apprendre à lire et à écrire. Quand je regarde mon fils lire tous ses livres, ses bottins, et que moi je sais même pas lire le nom d'une rue sur une plaque, ça fait quand même honte. Donc mes enfants vont à l'école, moi je sais ni lire ni écrire. Il faut que je fasse quelque chose. Donc je veux apprendre à lire. Et elle ajoute en plus, ta petite sœur, quand elle ira à l'école, elle aura besoin d'aide. Pour toi et ton frère, vous n'avez jamais eu besoin d'aide à faire les devoirs puisque vous étiez des enfants sages. Il faut dire que ça se passait très bien pour nous à l'école, on n'avait pas besoin. Mais elle ne savait pas comment ça va être pour la fille. Donc elle voulait pouvoir aider sa fille, notre petite sœur, et aussi que peut-être sa fille puisse avoir bien plus qu'elle n'avait eu à son époque, même si l'époque n'était plus pareille. C'est deux ans après la révolution iranienne, où il y a eu un effort d'alphabétisation en Iran. Et maman avait entendu que dans l'école, pas très loin de la maison, il y a une classe d'alphabétisation dans le courant de l'après-midi. Et donc, elle avait pris ses renseignements et elle s'était dit, donc, ça serait bien d'aller là. Alors, elle me l'annonce en disant que voilà, je voudrais aller apprendre à lire et à écrire, mais ça reste entre nous. Parce qu'elle savait très bien que mon père ne serait pas d'accord. On le savait qu'a priori, mon père n'aurait pas été d'accord. Tout simplement parce que voilà, il n'y a pas de raison. Il est comme ça. Quand il décide pour quelque chose, c'est comme ça, il n'y a pas de raison. D'autant plus que mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement taiseux. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des discours, qui parle, qui explique les choses, etc. C'est quelques phrases simples et puis c'est tout. Donc, il aurait dit non. Et puis, ce n'est pas la peine de lui demander pourquoi, puisque quand on lui demandait pourquoi, il disait « il n'y a pas de raison ». Vous savez, mon père, il se levait le matin. On le voyait parfois quand il partait et on le voyait le soir quand il arrivait, mais souvent très tard. Parce que c'est quelqu'un qui travaillait, il ne connaissait que le travail. Du matin au soir, travail, travail, travail. Et même maintenant, quand on discute de temps en temps avec lui, je suis parfois obligé de lui dire, mais arrête de parler de ton ancien travail, parce qu'il est retraité depuis un certain temps. Parle d'autre chose. Il était simple ouvrier dans une entreprise, mais je dis l'ouvrier, mais exemplaire qui a été toujours plébiscité par tous ses patrons. Tous les patrons qui sont passés avant la révolution et après la révolution le considéraient comme quelqu'un de bien par sa droiture, par sa propreté, la façon dont il parlait aux gens, la politesse. Personne autour de lui ne savait qu'il sait ni lire ni écrire. Personne parmi les gens qui l'entouraient à son travail n'était capable de dire qu'il est incapable de lire et écrire. On peut considérer que c'est une des raisons pour laquelle il aurait pu dire non. Bah, on est dans un pays patriarcal, l'homme domine la situation. Si la femme, elle sait lire et écrire bien plus que l'homme, donc elle prend l'ascendant. À partir de cet instant-là, et ce qui est arrivé par la suite... Je peux dire que dans notre famille et dans nos vies, il y a eu un avant et un après. Alors, mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement difficile pour ce qui concerne la cuisine. Il ne mange pas deux fois de suite le même repas. Donc, il fallait cuisiner tous les jours. Et donc, ma mère, elle cuisinait tous les jours. Donc, nous, on mangeait le reste éventuellement le lendemain à midi, mais le soir, il fallait qu'il y ait un repas nouveau. Et donc, le dilemme, c'était, si je vais au cours, après-midi, je ne pourrais pas cuisiner. Et donc, le pacte qu'il y a eu entre maman et le fiston, c'était, toi, tu surveilles le repas que je vais lancer, ou tu fais le repas. Pendant ce temps-là, moi, je vais au cours. Et donc, ainsi, j'étais dans la cuisine avec mes livres. Je faisais mes devoirs, l'algèbre, mathématiques et tout ce que vous pouvez vous imaginer, en surveillant le repas ou parfois en faisant la cuisine. Et au même temps, je faisais mes devoirs. C'était très simple. Mon père, il partait très tôt le matin et revenait très tard le soir. Donc, quand il arrive, le repas est prêt. Qui a préparé, ça c'est pas un problème, juste il fallait que le repas soit bon, parce que si c'est pas bon, ça passe pas. Et donc ma maman a commencé à faire mon apprentissage en expliquant, je dirais point par point, les détails de tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour préparer les repas, pour que ce soit des copies parfaites de ce qu'elle fait. Et puis, au fur et à mesure, pendant ces années, donc, je me perfectionnais. Ça veut dire, elle me faisait faire des repas de plus en plus compliqués. Imaginons, par exemple, mon repas préféré, Rohme Sabzi. Rohme Sabzi, c'est un ragoût avec des légumes aromatiques. Ah, ça, c'est le repas préféré de tous les enfants. Les légumes, il faut les préparer. Souvent, c'est elle qui le préparait. Par contre, pour mettre de la viande, rissoler la viande, et puis préparer le ragoût, faire cuire la viande, mettre les épices dedans, mettre les ingrédients dedans, à quel moment ajouter les légumes, c'était à moi de le faire, parce qu'il fallait que le ragoût, plus le riz que je faisais aussi à côté, soit prêt, juste bon, avant que le papa n'arrive. Il fallait pas que ce soit du recuit. Donc le repas doit arriver pile poil. Voilà une chose qu'elle me disait. Elle me disait, il faut sentir le repas. Il faut que ça sente bon. Et il faut que tu te rappelles quand tu manges les repas que je prépare. Si tu es en train de faire ce repas, sens, il faut que ça sente pareil. Et autre chose qu'elle me disait, elle me disait, il faut écouter. Écoute quand ça mijote. Écoute quand ça cuit. Parce que l'ensemble de ces parfums et ces bruits permettent de faire la bonne cuisine. Elle me disait tout, et donc moi je retenais, et de tête je faisais les choses. Il y avait Khoresh Karafs, qui ressemble à Rohme Sabzi, mais à la place de légumes aromatiques, on met des feuilles de céleri en fait. Hein. Et puis il y avait des tos kebab, il y avait des koukous sibzamini, koukous sabzi, il y avait... En fait, koukous, c'est un soufflé aux pommes de terre, soufflé aux légumes, donc koukous sabzi. Il y avait le ragoût d'aubergine. Oh, c'est magnifique. Le ragoût d'aubergine, c'est d'ailleurs préféré de mes enfants. Quand mamie Esmat faisait le ragoût d'aubergine, alors les enfants, ils étaient là, faire la prière devant le repas et manger. Vous savez, j'ai appris à faire le riz iranien, qu'on appelle polo, à la perfection. Parce que si c'était pas parfait, mon père ne le bouffait pas. Il ne mangeait pas. Il disait, mais qu'est-ce que c'est que ce repas, vous m'empoisonnez ou quoi? C'est pas possible. Il le balance à la poubelle. Une va à l'école, l'autre cuisine. Et puis quand l'un et l'autre, on était ensemble, on se mettait ensemble, elle faisait la cuisine et ses devoirs. Et moi, je me mettais à côté, je faisais mes devoirs et je corrigeais ses devoirs. Quand j'étais à l'école primaire, pendant qu'elle cuisinait, elle me voyait faire mes devoirs parce que je me mettais toujours dans la cuisine à côté d'elle. Et je faisais mes devoirs, donc j'écrivais l'alphabet, puis les petites phrases de l'école primaire et tout ça, les mots, puis les phrases. Et donc, je la voyais, des années plus tard, faire la même chose. Je la voyais écrire, lire, écrire, et je l'aidais. Parce que de temps en temps, je regardais, je disais, oh, non, cette lettre, c'est pas comme ça, c'est pas joli, ça. Il faut l'écrire plutôt comme ça. Moi, j'ai pris la main de ma maman pour lui faire écrire et bien tracer les lettres pour écrire propre, pour écrire net, pour avoir une belle écriture. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une sensation, comment je peux dire, inimaginable. Même j'ai les frissons encore. Prendre la main de sa maman et lui donner des devoirs. Corriger ses devoirs. Et déjà au début, lui prendre la main pour écrire l'alphabet, les lettres une à une, il y en a pas mal en plus. Et puis l'entendre, répéter les phrases. Moi, ma fierté, c'était démesuré. J'étais fier, mais honoré en même temps. Lui faire tenir le crayon, parce qu'au départ c'était le crayon, très rapidement elle a pris un bic, elle a dit, je veux pas me tromper, il faut que j'écrive du premier coup correctement. Mes copines, parce qu'il y en avait d'autres, non, elles sont toujours avec une gomme en train de gommer, etc. Moi, je veux écrire du premier coup, il faut que ce soit bon, et si c'est pas bon, je barre et je recommence, et je veux pas effacer. Ce qui fait qu'au départ il y avait pas mal de ratures dans ses devoirs, et puis plus tard elle écrivait du premier coup. « Notre stratagème a été très bien caché pendant deux ans et demi. Ils s'en étaient absolument pas rendu compte. Un jour, j'étais en train de faire mes devoirs. Ma maman, elle était à côté de moi. Elle avait mon livre de biologie dans la main. Et elle était en train de feuilleter et lire dans mon livre de biologie. Et mon papa arrive à l'heure habituelle, donc c'était le soir. Il arrive et il demande à ma maman, donc, qu'est-ce que tu fais? Et ma maman dit, je suis en train de lire le livre de biologie de ton fils. Mais depuis quand est-ce que tu sais lire? Depuis que ton fils m'a envoyé à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Et mon père de me regarder, ta maman va à l'école? Je dis oui. Depuis quand? Je dis depuis 2 ans ou 3 ans, j'en sais rien. Qui l'a envoyé? C'est moi. Mais pourquoi on m'a rien dit? Je dis parce que ça n'aurait rien changé. Elle me dit, mais qui est-ce qui préparait le repas pour le soir? Je dis moi. Toi, tu sais cuisiner? Et ta maman va à l'école. Ok. Et elle est partie. Fumait sa cigarette. Et puis c'est tout. J'ai une photo de l'époque. Donc, ça doit être en 65, je dirais. Je crois que j'ai un an ou peut-être un an et demi sur cette photo. Ma maman, elle s'appelait Esmat. Elle était magnifique quand même, ma maman. Les femmes portaient presque toutes un petit foulard. Très simple, comme vous voyez, les cheveux sont... Ah, il y a quand même... Vous voyez, elle était très moderne déjà à l'époque. Ça veut dire que malgré le fait qu'elle avait le foulard, il y avait des mèches de cheveux qui dépassaient. Voilà, là, vous avez la photo... Ça, c'était avant que je sois née.
Oui, oui.
Et vous voyez d'ailleurs ma maman qui venait de se marier, donc elle porte le foulard de la même façon. Mais on voit qu'elle était triste parce qu'elle venait de quitter ses parents, venir à Téhéran. Donc, vous savez, entre là où elle habitait et Téhéran, il y a environ, je dirais, 750 kilomètres. C'était l'époque où le train mettait pratiquement 12 à 14 heures pour faire le trajet. Donc, elle voyait ses parents une fois tous les 2 ou 3 ans. En fait, j'étais déjà le premier enfant donc, qu'elle a eu. Elle venait de quitter sa famille et sa ville natale. Donc, elle se trouve avec un moufeton dans le bras qui devient le confident et la raison d'être. Avec maman, on était très complices et on a fait une équipe, mais sans faille. Je vous dis, tenir le secret et faire en sorte que le papa ne sache pas pendant 2 ans et demi qu'il y avait quelque chose qui se passait dans son dos, c'est de la prouesse, hein. C'est de la prouesse. Au début, pour lire un article de 30 lignes, elle mettait 2 heures, 3 heures, je ne sais pas combien de temps, et puis elle m'interrompait tout le temps en disant « Tiens, ce mot-là, c'est quoi ?» etc., etc. Et au fur et à mesure, elle a commencé à lire et à écrire. Elle prenait des journaux, des magazines, donc elle lisait de tout. Et ce que je ne savais pas, et je l'ai su il y a quelques jours, ma grande sœur m'a dit « Tu ne sais pas tout encore ?» Parce que quand toi t'es parti en Europe, maman est retournée à l'école parce qu'elle voulait apprendre les mathématiques. Elle n'était plus la femme soumise et ignorante. Elle était une femme sachante. Elle avait pris l'ascendant sur son mari. Donc elle s'était placée juste une marche au-dessus. L'impact sur notre famille, je dirais, est énorme. Nous, les enfants, donc on a fait des études. Moi, je suis devenu chirurgien. Mon frère, il est devenu chirurgien-dentiste. La petite sœur est devenue ingénieure. Et la dernière sœur, elle a fait école de commerce. Elle est dans import-export. Elle parle 3 langues, etc., etc. Donc, mais tout ça, c'est grâce à elle. Parce que moi, je suis parti. Mais le petit frère et puis la petite sœur ont vu une maman qui savait lire et écrire. Elle était consciente du fait que l'éducation peut emmener les enfants loin. Je ne dirais pas que mon papa nous aurait empêchés de faire des études, certainement pas. Mais par contre, on avait une maman qui nous poussait dans le dos. Donc, elle a pu suivre la scolarité, surtout de ces deux filles qui ont suivi, et leur permettre en fait d'aller encore plus loin, faire des études universitaires au même niveau que les fils. Et puis, en fait, elle a élevé ses enfants avec un esprit de liberté. Vous savez, à partir du moment où vous savez lire et écrire, vous larguez les amarres. Le fait qu'elle a étudié et qu'elle a appris à lire et à écrire lui a permis d'élever ses filles, je dirais surtout, parce que c'est ça qui est important pour moi, très libres. Elles ont un esprit extrêmement libre. D'ailleurs, moi de mon côté, je leur parle d'égal à égal. Je leur parle comme si ici.
On vous remercie au 5 de parler à vos sœurs d'égal à égal.
De toute façon, je n'aurais jamais supporté que mes sœurs soient considérées inférieures à moi en tant que fille par rapport aux garçons.
Est-ce que vous avez marché dans sa combine, en fait?
Parce que je voulais que maman sache lire et écrire. C'était une femme, je dirais, je ne l'ai jamais entendue parler de ses désirs, des choses qu'elle voudrait avoir, qu'elle n'a pas eues. Elle ne parlait pas de ça. C'était une femme très simple, en fait, dans sa vie, dans tout ça. Très aimante, très avenante, etc. Très intelligente, très bonne mémoire. Elle avait des relations, mais extrêmement cordiale dans tout le quartier. Tout le monde la connaissait par rapport à sa droiture, par rapport à son caractère, qu'elle était toujours disponible pour les autres, etc., etc. Une femme avec autant de bonté, et en plus c'est ma maman, me demande quelque chose, je n'ai pas déjà le droit de dire non. Et un minimum que je pouvais faire, c'est de lui renvoyer l'ascenseur, comme on dit, pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle désirait. Elle arrive à lire et écrire. Elle marche dans la rue, elle regarde les tableaux, elle sait lire et écrire. À l'école avec nous, quand on allait pour nous inscrire, quand c'était papa ou maman, on leur donnait des documents à signer. Ils faisaient bonne figure et paf, ils mettaient une signature plus ou moins bancale. Et puis voilà, les papiers étaient signés. Franchement, le fait de permettre à quelqu'un de sa famille ou même de ses connaissances de lui ouvrir une petite fenêtre vers le monde de connaissances, je crois que c'est une satisfaction énorme. C'est un motif de fierté sans mesure.
C'était la playlist des grands enfants et des jeunes ados avec « Comment ma mère a appris à écrire », un reportage de Leïla Djitli réalisé par Emmanuel Geoffroy avec un coup de main d'Éric Lancien. Merci à Hossein Taker et à toute la famille Taker de Paris et aussi à Téhéran. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi. Et je précise que cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 mai 2022. I'm